Le journal, Pauline Renoir.
Bonjour à tous. La stratégie syrienne de Donald Trump est difficile à suivre. Un convoi militaire américain vient de se repositionner, mais cette fois sur des champs pétroliers. Une manœuvre que dénonce la Russie. Les tensions s'apaisent au Chili. Le président a entendu la voix de la rue. Sébastien Piñera multiplie les promesses. Le reportage de Justine Fontaine à Santiago. Barcelone est plus que jamais divisée sur la question de l'indépendance de la Catalogne. 350 000 manifestants dans les rues hier en soutien aux séparatistes incarcérés. Et ça continue aujourd'hui avec la réponse des anti-indépendantistes. En France, un immense complexe d'hôtels et de boutiques va sortir de terre. La question divise à Gonesse, au nord de Paris. On l'apprend ce matin, plusieurs médias américains annoncent la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. CNN et ABC parlent d'une opération militaire américaine dans le nord-est de la Syrie. Des informations pas encore officialisées par la Maison-Blanche, mais Washington promet une annonce très importante ce matin, 14h, heure française. Des informations recoupées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG évoque des tirs d'hélicoptères en Syrie, dans la province d'Idlib, des tirs qui auraient fait 9 morts. Une autre manœuvre de Donald Trump en Syrie ce week-end, mais cette fois défensive. Un convoi militaire américain s'est installé dans l'est du pays hier. Le président américain veut renforcer ses positions dans la province de Deir ez-Zor. C'est là que se trouvent des champs pétroliers. Et c'est un choix plutôt incohérent pour Nicole Bacharan. Elle est chercheuse à la Fondation nationale des sciences politiques et spécialiste de la politique américaine.
Il a été très réticent à rester en Syrie pendant assez longtemps. Il est resté sous la pression du Pentagone et puis il s'est retiré très brutalement il y a une bonne dizaine de jours avec les conséquences que l'on sait pour les Kurdes. Il a essayé à plusieurs reprises de revenir en arrière. Et puis là, finalement, il met en avant la question des champs pétrolifères. C'est pas absurde de se poser la question de la protection des champs pétrolifères et du risque qu'il y aurait à les voir tomber entre les mains de l'État islamique. Mais Donald Trump nous a annoncé il y a peu de temps que l'État islamique était vaincu et que la question était réglée. Donc on est dans une incohérence totale. Et c'est vrai que quand on lui dit pétrole et que le pétrole risque de tomber dans des mauvaises mains, c'est quelque chose qui le fait réagir beaucoup plus que de savoir que les Kurdes alliés des États-Unis et de l'Europe se font massacrer par les Turcs.
Nicole Bacharan de la Fondation nationale des sciences politiques. Les Chiliens ont passé leur première nuit sans couvre-feu depuis une semaine. Déblocage des tensions de la part du président Sébastien Piñera. Il dit avoir entendu le message de la rue. Avant-hier, 1 200 000 personnes ont manifesté dans la capitale Santiago. Et le chef de l'État va plus loin. Il promet un remaniement de son gouvernement, Justine Fontaine.
Après ces manifestations gigantesques à Santiago et dans tout le pays, les plus grandes depuis au moins 30 ans au Chili, le président Sébastien Piñera a pris la parole hier depuis le palais de la Moneda pour dire qu'il avait entendu les demandes des manifestants.
Durante la última semana,
au cours de la semaine qui vient de s'écouler, les pays et nous, les Chiliens, avons vécu des moments de violence brutale et destructrice. Mais nous avons aussi entendu les profonds messages des citoyens, des Chiliens et Chiliennes qui demandent et exigent une société plus juste, plus solidaire.
Il a promis de lever l'état d'urgence ce dimanche à minuit et a demandé à ses ministres de mettre leur poste à disposition en vue de former un nouveau gouvernement. Mais ces annonces n'ont pas vraiment convaincu Sébastien Bracea, qui participait hier à un nouveau rassemblement dans le centre de Santiago.
Je ne pense pas qu'il ait l'intention de proposer de vraies réponses aux demandes du peuple. J'ai le sentiment qu'en changeant de gouvernement, il change simplement les visages. Ça n'apporte aucune solution, explique-t-il. Beaucoup de manifestants demandent une assemblée constituante pour pouvoir remplacer la constitution actuelle, rédigée sous la dictature du général Pinochet. Ils souhaitent aussi une profonde réforme du système de retraite, privatisé dans les années 1980, ou encore du système de santé.
Le reportage de Justine Fontaine à Santiago. Et la crise politique chilienne résonne de l'autre côté de la frontière, en Argentine. En pleine élection présidentielle, le peuple est appelé aux urnes aujourd'hui. Le candidat sortant Mauricio Macri affronte le duo péroniste Fernandez-Kirchner. 9h04 sur France Culture, une marée humaine, bleue, rouge, jaune, couleur de la Catalogne. Voilà à quoi ressemblait Barcelone hier. 350 000 personnes ont manifesté. Des indépendantistes qui ne décolèrent pas après l'incarcération de 9 dirigeants politiques qui ont œuvré dans les tentatives de sécession. C'était en 2017. Juliette G à Barcelone.
Une devise, liberté et un mot d'ordre, transversalité. Hier, les organisateurs de la manifestation de Barcelone ont voulu rassembler, au-delà des indépendantistes, tous les citoyens qui considèrent la sentence du tribunal espagnol injuste. C'est le cas d'Anna, originaire de la banlieue de Madrid et contre l'indépendance.
C'est très injuste ce qui se passe. Ça ne devrait pas être légal. Tu ne devrais pas pouvoir être emprisonné pour avoir exprimé tes idées. Chaque peuple doit pouvoir se défendre et voter. Moi, je ne veux pas qu'ils sortent de l'Espagne, mais en même temps, je comprends qu'ils veulent partir.
Pour Elena de Barcelone, le problème vient de l'absence de réaction du gouvernement espagnol.
Le gouvernement espagnol ignore complètement les demandes du peuple catalan. Si le gouvernement espagnol, le Premier ministre Sanchez, n'essaye pas de résoudre ce problème essentiel qu'il y a dans notre pays, je pense qu'il ne remplit pas son devoir.
Le président du gouvernement catalan, lui aussi en cause face à l'absence de solution politique, a participé à la manifestation. Il a affirmé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible sur le chemin de l'autodétermination de la Catalogne. Une idée qui n'est pas du goût de l'autre moitié des citoyens de la région, les unionistes qui ont décidé de répondre. Ils organisent aujourd'hui à midi leur premier grand rassemblement pour soutenir la sentence.
Le reportage de Juliette G à Barcelone et la tension est montée en fin de journée hier entre manifestants et forces de l'ordre. Boris Johnson est en train de perdre de précieux alliés, les unionistes du parti DUP en Irlande du Nord. Plusieurs responsables ont déclaré en privé qu'il était improbable qu'ils soutiennent l'appel du Premier ministre britannique à des élections législatives anticipées le 12 décembre. C'est ce que rapporte aujourd'hui le Financial Times. Aucune décision officielle n'a encore été prise, mais Emmeline Vin, les dirigeants ont acté leur éloignement vis-à-vis du Premier ministre.
Le Premier ministre doit demander une renégociation s'il veut s'assurer du soutien du DUP. La chef du parti ne s'est pas encombrée de formules de politesse dans son discours de clôture. Arlene Foster s'est même félicitée d'avoir contribué à mettre en échec le deal de Boris Johnson. Quelques minutes plus tôt sur scène, son adjoint à la tête du parti, Nigel Dodds, a rappelé que l'accord instaurait une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et donc qu'il mettait en péril l'unité du royaume. Pour Nigel Dodds, il s'agit là d'une brèche dans l'accord de coalition entre conservateurs et unionistes. Il s'est d'ailleurs permis une petite pique envers ses partenaires de coalition. Il a indiqué avoir refusé d'inviter le secrétaire d'État au Brexit, qui selon lui aurait bien voulu s'exprimer lors du Congrès. Jusque-là, rien de très nouveau, la position du DUP est très claire depuis que l'accord a été trouvé il y a une dizaine de jours. Quant à la tenue d'élections anticipées, eh bien là non plus rien de nouveau. Même si le parti se dit prêt à repartir en campagne, il décidera s'il soutient la décision du Premier ministre lundi, soit le jour même du vote de la motion au Parlement.
Retour en France, à Rouen, où 500 personnes ont manifesté hier. Les habitants et plusieurs élus dénoncent le manque de transparence de l'État un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. L'enquête de santé prévue pour mars 2020 arrive bien trop tard selon les manifestants. Le projet Europa City continue de déchaîner les passions dans le Val d'Oise au nord de Paris. 200 personnes ont manifesté hier sur le terrain où le multicomplexe doit sortir de terre. Des hôtels, des boutiques, des centres de loisirs et peut-être à la clé 10 000 emplois dans une zone où le chômage est encore élevé. Voilà la raison qui explique cette mobilisation d'hier. Le mégacomplexe doit voir le jour dans le triangle de Gonesse en 2027. Mais il se heurte aussi à beaucoup d'opposition, Lilia Tagui.
Il y a d'abord l'argument écologique. Les promoteurs vont planter beaucoup d'arbres sur l'ensemble du centre. Mais ces arbres vont être plantés sur un sol artificialisé, une terre agricole convertie pour un milieu urbain. De plus, l'afflux de touristes va générer un trafic énorme pour la région, pas vraiment écologique non plus. Un autre problème est souligné par Franck Gintran, délégué de l'Institut des Territoires et auteur du livre « Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes ».
Pourquoi les promoteurs s'accrochent à ce projet? C'est à mon sens parce qu'il y a une dimension du projet qui n'est jamais évoquée, c'est que ce projet est conçu non pas pour des Français, mais pour des Chinois. L'objectif d'Europa City, c'est aux touristes chinois qui viennent sur Paris et qui viennent de plus en plus nombreux, de faire leurs achats non plus sur la capitale, mais sur une zone qui sera détenue en grande partie par un actionnaire chinois. C'est-à-dire de faire en sorte que l'argent qui est dépensé en France retourne à la Chine. C'est ça la nature intrinsèque du projet. si on ne le dit pas, en réalité, le projet est totalement incompréhensible.
Europa City vise en effet près de 30 millions de visiteurs par an. Dans cette zone où le chômage des jeunes est très élevé, Europa City ne dit pas si les 10 000 emplois qui doivent être créés leur seront particulièrement destinés. D'autant qu'il faudrait attendre près de 10 ans. S'il est finalement construit, le centre ne verra le jour au plus tôt qu'en 2027.
Lina Tagui pour France Culture. De la pluie ce dimanche matin sur une bonne partie de la France, en Bretagne, en région parisienne et dans les Hauts-de-France. On attend 11 à 15 degrés dans le nord-ouest, entre 20 et 24 degrés autour de la Méditerranée.